Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. Avant de commencer, un grand merci au sponsor de cette vidéo, HelloFresh. Plus besoin de présenter le leader mondial des box repas, The Application, qui sera ta meilleure alliée en cuisine. Ce que j'adore avec HelloFresh, c'est plusieurs choses, à commencer par le gain de temps et d'énergie. Tu me connais, je suis quelqu'un qui adore la bouffe, mais j'ai pas toujours le temps de cuisiner ou même de trouver des idées de repas, ou même parfois de tout simplement faire les courses. HelloFresh me fait gagner énormément de temps et ça commence avec le choix des plats. Sur l'application, tu as plein de propositions, elles changent de manière régulière, donc tu auras de la variété dans ton assiette. Plus besoin de se casser la tête avec la question tant redoutée. On mange quoi ce soir? D'abord, tu sélectionnes le nombre de personnes à la maison et le nombre de plats que tu veux dans ta box. Ensuite, tu choisis le type de recette, healthy, familial, rapide, végétarien, etc. Tu reçois ta box chez toi avec les ingrédients qu'il te faut dans les quantités exactes, donc zéro gaspillage. À l'intérieur de ta box, tu trouveras des fiches recettes. Tu as juste à suivre les étapes. Pas besoin d'être un chef cuistot, c'est vraiment un jeu d'enfant. Les ingrédients sont frais et d'excellente qualité. Avec Justine, on adore préparer notre repas ensemble. Et le tour est joué, il ne reste plus qu'à déguster. Santé! Tu peux suspendre ton abonnement et le reprendre à tout moment, donc n'attends plus. Utilise le QR code qui s'affiche à l'écran ou clique sur mon lien en barre de description ou en commentaire épinglé et utilise mon code MINUITYT pour commander ta box à moins de 3€ par repas plus 3 cadeaux surprises. Cette offre est valable en France et au Benelux pour les nouveaux clients ou si tu as annulé ton abonnement depuis au moins un an. L'affaire du jour nous fait voyager direction le Guatemala, pays du printemps éternel, un endroit extraordinaire où se côtoient vie moderne et édifices archéologiques grandioses de l'Empire Maya et autres sites laissés par les colons espagnols. On est entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes, entre forêts humides et plages de sable blanc, entre villages ruraux et villes modernes. La majorité de la population au Guatemala descend directement des Mayas, près d'une trentaine de langues autochtones y sont encore parlées, et les coutumes traditionnelles sont encore respectées dans de nombreux endroits. Selon le gouvernement français, quand on y voyage, il faut se méfier de la corruption des autorités, genre comme si on n'avait pas ça chez nous, des homicides et des vols avec violence qui y sont courants. Le Guatemala est un pays relativement pauvre, 60% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Selon beaucoup, cependant, il est tout à fait possible d'y voyager sereinement en appliquant quelques conseils basiques de savoir voyager, éviter les zones dangereuses, se déplacer pendant la journée, avoir un itinéraire défini, etc. La plus grande partie du pays est intacte et la nature imposante offre une diversité de paysages à couper le souffle. Montagnes, volcans, déserts, vallées ou encore jungles tropicales. C'est au Guatemala que se trouve l'un des plus beaux lacs du monde, le lac Atitlan. Et si je te parle de ce lac, c'est qu'on en a besoin pendant Tristan. Le lac Atitlan, classé réserve naturelle de biosphère par l'UNESCO, est un lac de montagne situé à 1500 mètres d'altitude. Il doit son nom à la langue nahuatl et veut dire l'endroit d'où l'arc-en-ciel tire ses couleurs. Impossible de faire plus poétique. Une autre traduction existe, Atl qui veut dire eau et Titlan qui veut dire entre, Atitlan entre les eaux. Ce lac fait 18 km de long et jusqu'à 340 mètres de profondeur. C'est le lac le plus profond d'Amérique du Sud. Il s'est formé il y a 84 000 ans à la suite d'une éruption volcanique et on comprend pourquoi il est entouré de trois volcans inactifs aujourd'hui. Le volcan Atitlan, le volcan San Pedro et le volcan Tuliman. Et on peut même apercevoir au loin un quatrième volcan actif et fumant et qui porte bien son nom, le volcan Fuego. Fuego en espagnol ça veut dire feu. Pour information, on considère un volcan actif quand le magma se déplace jusqu'à la surface à travers les conduits. Il devient inactif quand le magma refroidit et se solidifie, ce qui empêche les éruptions. Et on dit d'un volcan qu'il est éteint quand il n'est pas entré en éruption depuis au moins 10 000 ans. Le lac Atitlan, qui a joué un rôle dans la culture maya, est entouré de légendes et d'une atmosphère mystique. Comme beaucoup d'autres lacs autour du monde, il a son propre monstre, un peu comme le monstre du Loch Ness. Dans le lac Atitlan, cette créature à l'apparence de dragon s'appelle Chacona. Il vit dans une grotte au nord du lac, là où il est le plus profond. Du coup, il est tranquille, personne ne le dérange. En 1997, Samabage, une île submergée, est découverte dans le lac. Il s'agit d'un ancien site de pèlerinage maya, avalé par les eaux du lac vers 250-300 ans après Jésus-Christ, à la suite justement de l'éruption du volcan Atitlan. Protégé par les eaux, la cité submergée est trouvée dans l'état dans lequel elle a été engloutie. Des archéologues y retrouvent des sculptures, des monuments, de la documentation. Il s'agit d'un lieu de pèlerinage très visité, dans lequel les hommes de foi étudient les traits de fumée dans le ciel et interprètent des messages qu'ils considèrent divins. Dans les villages installés au bord du lac, certaines croyances anciennes persistent et les divinités mayas sont encore adorées. Cette ambiance mystique et nature qui attire le tourisme et les sublimes rives du lac reçoivent des voyageurs du monde entier. Le tourisme autour du yoga, notamment, y est très développé. Et d'ailleurs, certaines croyances mayas se rapprochent des préceptes yogis sur des concepts comme l'âme, le karma, la conscience. Dans la spiritualité maya, l'homme est une extension de l'univers qui l'entoure, son âme est ce qui le relie à la création. Le corps et l'esprit sont interconnectés, soigner le corps, c'est soigner l'esprit et vice-versa. Donc entre ses croyances, sa vue à couper le souffle, sa nature luxuriante, son air pur et toutes les activités disponibles, la région du lac Atitlan est l'endroit idéal pour un séjour autour du yoga. De nombreux resorts se sont installés sur la rive et proposent tout type de retraites spirituelles, yoga, arts martiaux, vacances écolo, courts séjours, formation pour devenir professeur, etc. C'est très instagrammable, donc nos amis TikTokers et autres créateurs de contenu, je me compte pas dedans, sur les réseaux sociaux, relaient à foison les images de leur voyage spirituel. Et c'est vrai que je ferais ça si je voyager un peu plus souvent. On vient y passer quelques jours, une semaine, un mois, plusieurs mois, et chaque jour comprend son lot d'activités. Méditation, randonnée, balade, sport, atelier d'écriture, respiration, cuisine, et évidemment, yoga. Il existe 5 yamas, les règles de conduite des yogis dans le monde extérieur, la non-violence, la vérité, j'insiste sur celui-là, l'intégrité, la modération des désirs et la non-convoitise. On vient donc sur le lac passer un moment de bien-être physique et spirituel dans la compassion, la bienveillance et la sincérité. Et retiens bien ce que je viens de dire parce que ça va servir pour notre affaire. Ou du coup, ça n'a pas servi pour notre affaire. Ces retraites sont une succession de moments de détente et de travail. On y développe sa discipline, sa détermination, sa force et sa souplesse aussi. Beaucoup de studios de yoga, notamment américains, organisent en partenariat avec les resorts guatémaltèques des retraites spirituelles pour leurs membres. Le club Be the Change, Soyez le changement en français, basé à Irvine en Californie, organise tous les ans la retraite Be the Change, en partenariat avec un hôtel du bord du lac Atitlan. Le 14 octobre 2023, Nancy Eng arrive au Guatemala pour participer à cette semaine de retraite. Nancy Eng naît en Californie en 1994, elle est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, elle a une sœur et 2 frères. Elle grandit dans un appartement avec 2 chambres où les enfants dorment ensemble. Elle crée dès son plus jeune âge des liens très forts avec ses frères et surtout avec sa petite sœur Nikki, avec qui elle a de grandes discussions sur la vie. Nancy, elle sourit sans cesse, elle fait souvent les pires blagues possibles, elle se marre à ses propres blagues, et voyant que ses frères et sœurs ne suivent pas, elle a aucun problème à les expliquer encore et encore pendant de longues minutes, le tout en rigolant bien sûr. C'est une jeune femme chaleureuse, pleine d'attention. Elle se souvient de tous les détails de la vie des gens qu'elle rencontre. Un jour, pendant la pandémie du Covid, son coloc tombe malade. Nancy est donc enfermée en quarantaine dans sa chambre. Et elle se souvient qu'il lui a parlé de son repas d'enfance préféré, un verre de lait de soja et des mantous, des petits pains cuits à la vapeur. Il s'agit d'une recette chinoise, de petits pains de farine de blé généralement, qui peuvent être farcis de patates douces ou de citrouilles. Nancy décide un jour d'aller faire des courses et elle prépare ce plat avec amour. Elle le dépose sur un plateau devant la porte de la chambre de son coloc. Nancy, c'est une jeune femme aimante et bienveillante, elle est profondément passionnée par les gens. Il lui arrive fréquemment d'être en retard parce qu'elle est prise dans une conversation. Elle est très bavarde, mais elle aime aussi écouter. Elle pense qu'il faut savoir apprécier chaque personne, que chaque personne est spéciale et intéressante. Elle aime ces discussions qui peuvent sembler basiques ou inutiles, avec la boulangère, le caissier de son supermarché, la barista du café du coin de sa rue. Un jour, elle va avec sa famille pour recycler des boîtes de conserve et des canettes, et elle se retrouve à parler pendant une heure avec le mec qui travaille sur place. Pas de recyclage ou quoi, hein, de lui, de sa vie, de sa famille, de ses hobbies, etc. pendant une heure. Nancy aime vivre le moment présent et accorder le temps qui lui semble nécessaire à chaque événement de la vie quotidienne, aussi petit et insignifiant puisse-t-il paraître. Elle aime parler d'émotions et d'histoires personnelles. En 2023, Nancy a 29 ans, elle réside à Monterey Park en Californie, juste à côté de Los Angeles. C'est une ville où résident beaucoup de jeunes actifs, de retraités et de familles. Les écoles y sont très bien notées. Et justement, Nancy a fait des études pour être professeure des écoles. Elle occupe un poste au sein de l'école élémentaire Garfield à Alhambra. Elle s'occupe d'enfants handicapés aux besoins spécifiques. Elle adore son métier parce qu'il lui permet d'accompagner un enfant à la fois et donc de prendre tout le temps nécessaire de bien s'occuper de l'enfant dans son individualité. Nancy est heureuse de pouvoir aider et servir ses enfants. Et puis elle est très routinière, très responsable, elle prend son métier très à cœur. Son emploi du temps est hyper cadrée et elle s'épanouit dans cette organisation qui est millimétrée. Tous les matins, elle se réveille à 6h30. Après quelques étirements et un petit déjeuner, elle part travailler à 7h30. Elle finit sa journée avec les enfants à 17h. Elle se rend alors à des cours de yoga, discipline qu'elle découvre 4 ans auparavant. Sa sœur Nikki lui parle d'un essai gratuit dans un studio à quelques kilomètres de chez elle. Les deux jeunes femmes vont faire une séance d'essai. Nikki déteste, mais Nancy adore. Elle tombe amoureuse de cette discipline. Elle aime la connexion, la détente que ça lui procure. Après le yoga, Nancy, elle a un moment de calme et elle en profite pour retrouver des amis, s'occuper de son chat Momo ou se cuisiner un bon dîner. Nancy n'est pas très bonne cuisinière, mais elle veut s'améliorer et elle y met surtout tout son cœur. Elle a récemment souscrit à un service de livraison de kits repas, et alors que sa journée tire à sa fin, elle travaille encore sur ses compétences. Et enfin, elle prépare sa journée du lendemain et elle se repose. Et ça recommence le lendemain, tous les jours de la semaine, toutes les semaines. On comprend qu'avec ce rythme intense, elle a parfois besoin de souffler, et pour la première fois en 2022, elle se rend à une retraite de yoga organisée par le studio qu'elle fréquente en Californie, la retraite Be the Change. Cette retraite conjugue plusieurs des passions de Nancy. Il s'agit de passer une semaine en pleine nature au Guatemala, entre yoga, randonnée et autres activités sportives et spirituelles. Nancy adore ce moment de repos qui lui permet de prendre un peu de recul sur son planning très chargé et très routinier. Là-bas, elle se reconnecte avec elle-même, avec la nature, et elle déconnecte un peu du rythme de sa vie quotidienne. Elle décide de repartir en 2023 pour le même voyage. Elle arrive le 14 octobre 2023 au Guatemala. Elle rejoint les hauteurs du lac Atitlan pour une semaine de paix et de relaxation. Le 19 octobre, après quelques jours de yoga, de méditation et d'activité, son groupe se rend sur les rives du lac Atitlan. Ils louent des kayaks et ils se rendent sur le lac pour un moment donc de détente avec une vue imprenable sur les volcans. Le 20 octobre, alors qu'elle fait la queue à la boulangerie, Nikki, la sœur de Nancy, reçoit un appel. C'est son père. Il lui dit qu'il faut qu'elle rentre chez elle et il va la rejoindre là-bas. Il ne lui en dit pas plus, mais ça semble très sérieux. Nikki rentre vite chez elle, elle retrouve son père, sa mère et ses deux frères. Et le père leur explique alors qu'il a reçu un appel étrange de la part d'une des personnes avec qui Nancy est partie au Guatemala. Au téléphone, cette personne lui dit que Nancy ne va pas rentrer du Guatemala. Il essaie donc d'expliquer à sa famille ce qu'il en a compris, mais ça lui paraît tellement étonnant que lui-même ne comprend pas trop. Nancy, elle s'entend à merveille avec sa famille, elle aime son travail, elle n'a pas prévu de changer de vie. La famille est dans l'incompréhension totale. Et au départ, sa sœur Nikki se dit « elle aime tellement le pays, elle veut peut-être y rester un peu plus longtemps, je vais lui parler, ça va lui passer ». Nikki et ses frères tentent de téléphoner à Nancy, mais leurs appels restent sans réponse. Ils décident de rappeler la personne que leur père a eue pour essayer d'avoir des éclaircissements. Ils appellent également les 11 autres personnes du groupe, les personnes présentes à la retraite spirituelle. Mais rien ne s'éclaircit, la situation reste ambiguë et surtout on ne sait toujours pas où est Nancy. Ce qui s'est passé, en réalité, c'est que Nancy a disparu alors qu'elle faisait une excursion à bord d'un kayak sur le lac Atitlan. Elle et 11 autres personnes se promènent calmement sur le lac et à un moment, Nancy disparaît. Personne n'est capable de dire ni quand, ni comment. Personne ne l'a vu tomber à l'eau ou se noyer. Personne n'est témoin de cette disparition. La dernière fois que la famille Heng a vu Nancy, c'était 2 jours avant son départ pour la retraite de yoga, donc le 12 octobre. Ils sont alors dans un restaurant chinois pour l'anniversaire de Nikki et Richard. Et Nancy pose une question. Est-ce qu'on doit vraiment commander les ravioles de crevettes alors qu'on a déjà un autre plat de crevettes qui arrive? Elle est assise en face de Nikki, sa sœur, et elle lui demande sans cesse de quoi elle et son partenaire, assis à côté, discutent. Elle est à l'autre bout de la table, donc elle n'entend rien. Une scène de famille absolument normale et presque insignifiante, mais peut-être la dernière en présence de Nancy. À la fin du repas, Nancy rassemble toute la famille pour prendre 7 photos qui s'affichent à l'écran. Ils soufflent les bougies, mangent le gâteau d'anniversaire, ils se disent au revoir sur le parking du restaurant. Nancy annonce alors qu'elle doit se dépêcher de rentrer parce qu'elle doit finir sa valise en prévision de son départ au Guatemala à la même retraite que l'année précédente. et avec le même instructeur. C'est donc pas une nouvelle expérience, elle retourne dans un endroit qu'elle a aimé, qu'elle connaît, et c'est la dernière fois que la famille Heng verra Nancy. La famille, dépourvue et dans l'incompréhension la plus totale, appelle les autorités guatémaltèques pour lancer des recherches au plus vite. Les autorités sont contactées le 20 octobre, et également par l'un des participants de la retraite. Il n'est pas précisé lequel des 11 prévient les autorités, mais on sait que c'est le lendemain de la disparition que ce sera fait. Tout de suite, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce délai? Pourquoi attendre presque 24 heures pour signaler une disparition? Les autorités guatémaltèques attribuent 72 heures de ressources pour les recherches en cas de disparition. Donc après 3 jours, si rien n'est trouvé, on abandonne. On déclare la personne portée disparue et on passe à autre chose. Des détectives sont envoyés pour rechercher Nancy, mais arrivés sur place, ils se retrouvent bien embêté, il n'y a personne à interroger, pas de témoin, personne n'a vu Nancy. Et pour cause, toute l'équipe de la retraite spirituelle s'est carapatée. Ils se sont tous barrés, ils sont rentrés aux États-Unis dans les 8 à 12 heures qui suivent la disparition de Nancy. Je suis un peu énervée. Les détectives demandent donc une assistance internationale pour pouvoir contacter ces personnes et ça ne donne rien. En plus d'avoir plus ou moins fui le pays et de ne pas avoir aidé à rechercher Nancy au Guatemala, les membres du groupe de yoga ne parlent pas. Certaines sources indiquent que le groupe n'a pas réellement pris la fuite, chacun a juste repris son vol prévu. Enfin chacun, presque. 2 personnes ont modifié leur vol. On n'en sait pas plus là-dessus. Ce qu'on se demande bien sûr, c'est qui sont ces personnes qui ont modifié leur vol retour et surtout pourquoi. Ce changement, est-ce qu'il est lié à la disparition de Nancy? C'est fort possible. Arrivés au bout de leur délai de 72 heures, les autorités guatémaltèques n'ayant rien trouvé remballent leurs équipes. Et sauf qu'il est hors de question pour la famille Heng de déclarer Nancy disparue et de passer à autre chose. La famille prend alors en charge elle-même les recherches. Une cagnotte GoFundMe est lancée pour financer le Sherlock Holmes sage, et les recherches se poursuivent. La famille embauche un service de recherche privé, la Black Wolf Helicopter. L'idée est de lancer les recherches le plus vite possible. Nancy est peut-être encore en vie et peut-être en danger. Il faut agir vite. À défaut d'avoir des indications des témoins, les recherches se basent sur une vidéo de Nancy dans son kayak sur le lac Atitlan ce jour-là. Malgré ça, les recherches commencent autour du lac, mais Atitlan, c'est une zone très difficile. Déjà, le lac est immense et très profond, de 340 mètres à certains endroits. D'après Chris Sharp, directeur du Black Wolf Helicopter et organisateur des recherches aériennes, les eaux sont très sombres, le travail s'avère difficile. Les recherches commencent malgré tout à l'endroit où Nancy a été vue pour la dernière fois, l'endroit de la vidéo. Les équipes en hélicoptère ratissent toute la côte de chaque côté du lac. Un grand nombre de chercheurs volontaires et une équipe canine font également le tour du lac et vérifient les berges. Si la jeune femme s'est noyée, on imagine que son corps sera retrouvé quelque part. À l'issue de la première journée de recherche, rien. Pas de Nancy, ni vivante, ni morte, et pas plus d'indices sur l'endroit où elle pourrait se trouver. Chris Sharp rappelle que le lac est profond, froid, mais a priori il n'y a pas de tunnel souterrain, donc il y a peu, voire pas de risque que son corps soit coincé sous la surface. Il n'y a pas de prédateurs non plus dans la région, donc pas de risque que son corps ait été mangé. Alors où est Nancy? On en vient à douter du fait qu'elle ait disparu dans l'eau. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un accident. Et pour rajouter à la frustration, sans témoignage, la position précise de Nancy au moment de sa disparition reste inconnue. Pourquoi les témoins ne veulent pas aider? Pourquoi 11 personnes gardent le silence? Et tu verras qu'il y a encore plus suspicieux comme comportement de leur part. La famille de Nancy tente de contacter quiconque dans la zone dispose d'un bateau, de matériel ou ne serait-ce que de temps pour aider dans les recherches. Le 21 octobre, 2 jours après la disparition, la zone est ratissée par des hélicoptères, des drones, des bateaux, des plongeurs, des piétons. Nombreux sont les volontaires qui se présentent. Et ils vont chercher pendant des semaines. La famille Heng cherche à obtenir les contacts des autres participants à la retraite de yoga, des éventuels témoins de la disparition de Nancy. Leurs noms et leurs coordonnées leur seront finalement donnés par le resort. Enfin, le 25 octobre, 6 jours après la disparition de Nancy, sa sœur, Nikki, envoie un email. Et ce premier email, elle l'envoie à une certaine Christina Blazek, apparemment la dernière personne à avoir vu Nancy en vie. Ce mail, il est plein de considérations. Nikki lui demande s'il est possible d'entrer en contact avec sa famille pour pouvoir obtenir même une miette d'informations supplémentaires qui leur permettrait peut-être de faire avancer les recherches. Ce mail restera sans réponse. La famille prend alors la parole publiquement à la télévision pour demander aux témoins de parler, les suppliant de les aider dans les recherches. Nikki dira « Il y a des personnes parmi le groupe qui ont refusé de parler de ce qu'il s'est passé. Nous ne comprenons pas pourquoi ils refusent de parler s'il ne s'est rien passé d'abominable. Nous les supplions de bien vouloir nous venir en aide. Nous avons besoin de réponses. » Nikki raconte ensuite que son père dort avec son téléphone portable sur la table de nuit, attendant un appel, un SMS, n'importe lequel, une demande de rançon même, qui signifierait que Nancy est encore en vie. Le 31 octobre, une semaine plus tard, Nikki tente une nouvelle fois de joindre Christina Blazek, toujours par email. Cette fois, le ton est un peu plus pressant, et bien sûr, on comprend la frustration de Nikki et de sa famille quant à ce silence. Dans ce deuxième email, Nikki lui dit qu'elle et sa famille commencent à suspecter que Christina puisse avoir quelque chose à voir dans la disparition de Nancy, et son silence ne fait qu'alourdir leurs suspicions. Une fois encore, le mail reste sans réponse. Le 9 novembre 2023, ce sont des bateaux et des plongeurs qui se joignent aux deux hélicoptères pour fouiller le lac. Mais toujours aucun signe de vie de Nancy. Il faut que ces 11 personnes qui ont participé à la retraite avec Nancy et qui sont rentrées sans elle se mettent à parler. Ils sont la seule chance de pouvoir retrouver un jour Nancy, morte ou vivante. Le 13 novembre, Chris Sharp, enquêteur privé engagé par la famille Heng, balance publiquement deux noms dans un communiqué de presse où il indique clairement que le cas est une affaire criminelle avec deux suspects. Christina Blazek, la dernière personne à avoir vu Nancy vivante, celle qui reçoit deux mails de sa famille la suppliant de donner des informations et qui refuse de répondre. Et la deuxième personne, c'est Eduardo Rimalda, aussi connu sous le nom de Yogi Eddy, c'est l'organisateur de la retraite. La famille explique « Nous avons attendu 6 jours après l'incident pour contacter Christina Blazek, 6 jours de plus pour la relancer. Quand les médias ont parlé de notre situation le 3 novembre 2023, nous avons demandé aux témoins de parler sans donner leur nom. Après 10 jours, personne n'a parlé et les recherches s'essoufflent. Black Wolf Helicopter a alors rendu le nom de Christina public et Chris Sharp dira aussi « Pour moi, cela devient désormais une enquête criminelle parce que les témoins qui étaient présents au moment des faits ne se sont pas manifestés. » Le lendemain de ces déclarations, soit 26 jours après la disparition de Nancy, Christina Blazek publie enfin un communiqué via son avocat. Le 15 novembre, quasiment un mois après la disparition de Nancy, l'avocat de Christina s'exprime au nom de sa cliente. Cet avocat, c'est Christopher Gardner. Il adresse un communiqué à la presse. Christina est défenseur public, un métier proche de celui d'avocat commis d'office en France, dans le comté de San Bernardino, en Californie. Donc le droit, ça la connaît un peu. Et à travers la bouche de son avocat, voici ce qu'elle raconte. Elle donne sa version des faits de la journée. Le 19 octobre, elle, Nancy, et 9 autres personnes se rendent sur le lac Atitlan pour une excursion en kayak. Ils se retrouvent sur l'eau vers 10h30 et c'est à ce moment-là que la vidéo de Nancy est prise. Christina raconte « Je me souviens que la dernière fois que j'ai vu Nancy, ça faisait environ une heure que nous étions sur l'eau. Je me suis redressée, j'ai regardé devant et j'ai vu Nancy un peu plus loin sur le lac, elle admirait la vue. À ce moment-là, le vent se lève sur le lac, l'eau commence à s'agiter et Christina rame pour rejoindre le rivage. Elle croise alors Nancy au milieu du lac, là où il est très profond et là où l'eau est très sombre. Les deux femmes discutent et Nancy lui dit qu'elle veut nager. Christina la met en garde, elle lui dit « Tu ne devrais pas te baigner, les courants sont très forts ici, perso, hors de question d'aller dans l'eau pour moi. » Malgré ça, Nancy se jette à l'eau. Christina tente de l'avertir encore une fois que les conditions sur le lac ne sont pas safe pour se baigner, mais Nancy l'ignore, elle profite, elle nage, et son kayak commence à dériver et s'éloigner. Christina raconte qu'elle tente de récupérer le kayak de Nancy pour lui ramener. Elle se retrouve donc une jambe sur son kayak et une jambe sur celui de Nancy, et elle rame vers elle. L'un des kayaks finit par lui échapper et dérive. Christina se retourne pour aller le récupérer encore une fois. Elle le rattrape et quand elle fait demi-tour, Nancy a disparu. Christina se rend vite compte que Nancy n'est plus là, seule, loin du reste du groupe, elle ne peut rien faire. Elle ne va pas plonger alors que visiblement il y a un danger. Elle rame donc à toute allure vers le rivage pour aller chercher de l'aide. Christopher Gardner, son avocat, continue le récit. Christina s'est précipitée vers le rivage aussi vite qu'elle a pu pour raconter ce qui s'était passé. Il y a des témoins qui ont dit avoir entendu ma cliente alors qu'elle revenait crier à l'aide. Elle était visiblement secouée, visiblement bouleversée, et elle a été escortée par des personnes du groupe de yoga pour se calmer. Elle a été emmenée au commissariat de police du Guatemala où elle a fait sa déposition. Ils lui ont dit qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et apparemment, ce lac est connu pour son grand risque de noyade. Fin de citation de l'avocat. En entendant le récit de Christina via son avocat, Nikki, la sœur de Nancy, dira « Si c'est bien ce qu'elle dit et que c'est un accident, je ne comprends pas comment elle a pu choisir de laisser ma famille dans l'ignorance pendant près de 4 semaines et de ne pas le dire dès le début. Nous ne blâmons ni n'accusons personne de quoi que ce soit. Tout ce que nous voulons, ce sont des réponses et nous voulons ramener Nancy à la maison. J'espère qu'elle comprend que nous n'avons aucun récit de ce qui s'est passé parce qu'elle est la seule personne à avoir vu ce qui s'est passé et ça n'a pas été inclus dans le rapport. Et pour cause, Nikki raconte qu'elle et sa famille ont obtenu une copie complète du dossier de la police au Guatemala et que la déclaration dont parle Christina ne figure nulle part dans ce dossier. Selon le rapport, le bureau du procureur n'a pas pu obtenir de témoignage parce que le groupe est parti tôt le lendemain de la disparition. Nikki ajoute qu'un procureur guatémaltèque a envoyé une demande à l'ambassade américaine en décembre pour obtenir les déclarations de Christina Blazek et d'Eduardo Rimada, le professeur de yoga et organisateur de la retraite, preuve que les déclarations n'ont pas été incluses dans le dossier. Et bien que l'avocat justifie le silence de Christina en disant qu'elle a été traumatisée par l'événement, puis par la réaction de la famille qu'elle a trouvée agressive, et enfin par la publication de son nom dans la presse, il va jusqu'à dire « Ma cliente est une victime absolue à 100%. » Mon cul, c'est du poulet. Le FBI se demande aussi pourquoi les témoins n'ont rapporté la disparition que quelques heures après le drame, pourquoi ils ont refusé de témoigner auprès de la police guatémaltèque et pourquoi ils ont pris tant de temps à se manifester une fois les recherches entamées. Je suis super énervée dans cette affaire. D'un coup, tout le monde se réveille. Tous les témoins qu'on n'entendait pas jusqu'à maintenant ont quelque chose à dire. On a donc les 9 participants à la retraite, dont Christina, l'organisateur Eduardo dit Eddie, le professeur de yoga, et les propriétaires du magasin de location Kayak Guatemala, Lee et Hélène Bill. Et très vite, ça va se bagarrer entre le groupe de retraite et les propriétaires de la boutique de location. Côté groupe de retraite, on incrimine la boutique. On dit qu'ils n'ont pas donné de gilet de sauvetage, d'ailleurs il n'y en a même pas dans la boutique, et ils n'ont pas non plus donné d'instructions claires ou d'informations quant au danger du lac, les vents, les courants, etc. Donc c'est leur faute s'il y a eu noyade. De leur côté, Hélène et Lee Bill, les propriétaires de la boutique, insistent. Ils proposent toujours des gilets de sauvetage, mais ce groupe a refusé de les prendre. Ils racontent le comportement étrange de ce groupe qui part à 11, revient à 10 et refuse de payer les kayaks. Hélène raconte: quand le groupe revient, ils ne sont que 8, mais on voit au loin, à environ 100 mètres, les 2 derniers kayaks. On les observe pagayer pendant un moment, jusqu'à ce qu'on les perde de vue. Et un moment après, je vois Christina approcher avec le professeur de yoga. Elle semble clairement bouleversée. Ils passent sans s'arrêter et ne nous disent pas un mot. Fin de la déclaration de Lee Bill et Hélène Bill. Déclaration fort étrange, puisque d'après un rapport de police, ils sont même pas sur place, ils sont à l'étranger au moment de l'incident. Enfin, du moins, Hélène n'est pas à la boutique, elle est chez elle, et Lee, bah, il est à l'étranger. Ils n'apprennent la disparition de Nancy que bien plus tard. Eduardo, de son côté, il soutient également qu'aucun des propriétaires n'est présent ce jour-là. Donc c'est vraiment la parole des uns contre les autres, et ça n'avance pas. Il doit exister des preuves aux différentes hypothèses avancées, mais on n'y a pas accès. Impossible de démêler le vrai du faux. Eduardo va aussi expliquer qu'il n'avait pas pensé à collecter les informations d'urgence des membres du groupe, et c'est pour ça qu'il n'appelle la famille que quelques heures après la disparition de Nancy. Et c'est tout ce qu'il dira à ce propos. Et pourtant, quand tu pars en voyage organisé, normalement, on te demande un contact à prévenir en cas d'urgence. Mais bref. La situation reste bizarre. Aucune certitude, aucune piste ne ressort de ces témoignages. Et les semaines passent. Via la cagnotte GoFundMe, la famille Heng va publier des mises à jour, des nouvelles, assez régulièrement. Alors ça fait très journal de bord, mais c'est malheureusement le témoin de la frustration, de la peine et du désespoir de la famille Heng. Après 5 semaines, dans une première mise à jour, voici ce qu'ils disent. La famille reconnaît pleinement la possibilité que Nancy se soit noyée, mais ils insistent sur les incohérences dans les déclarations des personnes présentes. Ils veulent pour l'instant concentrer leurs efforts sur la détermination du lieu précis de l'incident. Ils ajoutent que Christina a parlé avec le FBI et ils espèrent qu'elle parlera également avec le bureau du procureur général qui mène l'enquête. Après 8 semaines de recherche, donc le 14 décembre 2023, une nouvelle mise à jour dans laquelle la famille explique avoir contacté les participants à la retraite, les passants et toute autre personne ayant des informations et souhaitant leur parler. Nous avons organisé des efforts de recherche, disent-ils, engagé les autorités des États-Unis et du Guatemala et partagé notre histoire avec les médias. Les procureurs guatémaltèques ne disposent toujours pas de déclaration officielle de Christina Blazek ou d'aucun des participants à la retraite. Malgré son implication, le FBI ne peut malheureusement pas partager d'informations avec eux. avec les équipes de recherche sur ce qu'ils ont fait ou sur ce qu'ils ont appris. Le 2 décembre, Bruce Legacy, une organisation bénévole spécialisée dans la recherche et le rétablissement des victimes de noyades, guidée par Keith Formican, a commencé la recherche sous-marine. Et c'est grâce à des entretiens avec des témoins et à des analyses des conditions météo qu'on détermine une zone dans laquelle Nancy aurait pu se retrouver sous l'eau. Et pourtant, personne n'a réellement vu Nancy entrer dans l'eau. En tout cas, pas d'après leur déclaration, ou leur absence de déclaration. Après 12 semaines, soit le 11 janvier 2024, nouvelle mise à jour, la famille se rend enfin au Guatemala en décembre, dans le but bien sûr d'obtenir justice pour Nancy, et avant de retourner aux États-Unis, ils organisent une cérémonie pour Nancy, sur le lac, en lisant des lettres à haute voix et en offrant au lac des collations et les boissons préférées de Nancy. Côté enquête, ils apprennent que malheureusement, il n'y a toujours pas d'avancée. Après 15 semaines, février 2024, une information très lourde va tomber. Un pot de vin présumé aurait permis de omettre la déclaration de Christina et d'éviter qu'elle soit détenue dans le pays. La famille touche le fond, comme ils le décrivent dans cette mise à jour, à tel point qu'ils envisagent de peut-être tout abandonner. Ils considèrent de plus en plus la possibilité qu'ils n'auront peut-être jamais de réponse, jamais d'éclaircissement quant à toutes ces contradictions, ces incohérences autour de cette disparition mystérieuse. Et ils ne trouveront peut-être jamais la paix. Et voici les quatre contradictions majeures autour de cette affaire. D'abord, on a la supposée déclaration de Christina. D'après son avocat, elle aurait fait cette déclaration complète à la police au Guatemala, mais ni le commissariat, ni le bureau du procureur n'ont de traces. Les propriétaires de l'hôtel disent qu'ils ont accompagné Christina au poste de police avec un autre participant à la retraite spirituelle, mais plusieurs autres participants affirment que la déclaration de Christina avait été volontairement omise. Donc il y a cette rumeur de pot de vin pour effacer sa déclaration du dossier. Deuxième contradiction, apparemment il y a deux individus sur le bateau qui ont trouvé et récupéré le kayak de Nancy. Une personne affirme que le kayak a été retrouvé à l'endroit avec la pagaie manquante. Et l'autre personne, qui se trouvait sur le même bateau, affirme que le kayak a été retrouvé à l'envers, avec la pagaie à l'intérieur. Les Bill, propriétaires du kayak Guatemala Los Elementos Adventure Center, c'est un très long nom pour un centre de kayak, mais bref, donc les Bill affirment avoir reçu le kayak et la pagaie de Nancy. Et malheureusement, cet équipement a été remis avec le reste des kayaks et des pagaies dans le magasin, au lieu d'être correctement inspecté, collecté, mis de côté par les autorités. Une autre source annonce que la pagaie a été retrouvée grâce aux recherches aériennes et qu'elle a été placée sous scellé comme élément d'enquête. Troisième et dernière contradiction, monsieur et madame Bill, propriétaires du kayak Enco machin, affirment à la télévision nationale qu'ils ont été témoins de l'itinéraire emprunté par le groupe sur le lac et que l'ensemble du groupe a refusé les gilets de sauvetage. Cependant, il est indiqué dans le rapport du procureur que monsieur Bill était à l'étranger au moment de la disparition de Nancy, et ça c'est facilement vérifiable, et il est aussi indiqué que madame Bill se trouvait chez elle au moment de l'incident. Les participants confirment qu'on ne leur a jamais proposé de gilet de sauvetage. Aucun gilet de sauvetage n'est visible dans le magasin et il n'y en avait pas non plus de disponible sur les kayaks. Et pour finir, le parquet guatémaltèque qui dirige l'enquête ne dispose toujours pas du témoignage de Christina. Le 20 décembre 2023, le procureur adresse une demande d'assistance internationale au ministère des Affaires étrangères pour obtenir la déclaration de Christina. Plus d'un mois plus tard, la demande n'a toujours pas été reçue par l'ambassade américaine. À voir l'enquête enlisée, la famille Heng vit l'horreur. Nikki dit que sa plus grande peur, c'est que l'affaire devienne un cold case et que plus personne ne se soucie de sa sœur et que les recherches cessent même s'il n'y a pas de réponse. Son but est de continuer à parler de Nancy aux médias. C'est pour elle la seule solution pour faire entendre leur appel à l'aide et pour éviter que la disparition de Nancy ne soit oubliée. Au-delà des médias traditionnels, c'est un autre biais qui va permettre de garder la disparition de Nancy dans les esprits et de faire pression sur les témoins et sur les autorités. Alors que la famille Heng a du mal à joindre les médias au départ, la communauté TikTok va participer grandement à médiatiser l'affaire. Dans Business Insider ou encore Rolling Stone, on peut trouver les titres d'articles suivants. Les détectives de TikTok sont obsédés par le cas de Nancy Heng, une femme qui a disparu lors d'une retraite de yoga. Une vilaine vérité. Ou encore, elle a disparu lors d'une retraite de yoga. Maintenant, TikTok cherche des réponses et fait passer, mine de rien, l'affaire au premier plan dans la presse traditionnelle. Les vidéos avec le hashtag Nancy Heng vont récolter 36 millions de vues sur la plateforme. Le créateur de TikTok, Ed Choi, dont le compte est fort de 500 000 abonnés, rapporte la disparition de Nancy depuis le 5 novembre et ses vidéos atteignent régulièrement des centaines de milliers, voire plus d'un million de vues. Dans sa première vidéo, il aborde les circonstances étranges autour de la disparition mystérieuse. Ed Choi et d'autres ont depuis réalisé des vidéos faisant état de chaque mise à jour sur cette disparition. Le contenu True Crime est énorme sur TikTok et accumule régulièrement des millions de vues. Les détectives d'Internet jouent également un rôle important et en temps réel dans les affaires actuelles. Pour citer un des exemples les plus connus, quand Gabi Petito, influenceuse, disparaît en août 2021, les réseaux sociaux sont inondés d'informations et de théories sur sa disparition. Parallèlement à l'enquête officielle, certains de ses contenus participent à la résolution de l'affaire. Mais il faut se méfier, le grand danger de l'appât du like peut favoriser le contenu mal informé, insensible ou exagéré. Certains créateurs propagent des théories du complot qui n'apportent aucune aide aux enquêtes actives, voire même font diverger l'enquête sur des pistes sans fondement, et donc ça ralentit sérieusement l'enquête. Kendall Stoney Street, maîtresse de conférences en criminologie et sociologie à l'université de Sheffield en Angleterre, avertit « Si vous regardez la couverture TikTok sur Nancy Heng, les vidéos qui ont le plus de likes incluent celles qui couvrent des complots, comme sa mort étant un sacrifice sectaire ou un crime de haine minutieusement coordonné. » Elle ajoute que les cas qui font le buzz ont tendance à mettre en scène un type particulier de victime, une jeune et jolie femme blanche, le fameux Missing White Woman Syndrome, phénomène qui fait que les cas de femmes, souvent des jeunes filles blanches, disparues, sont beaucoup plus susceptibles de faire l'actualité que les disparitions ou même les meurtres de femmes racisées. Enfin, j'aime pas ce mot, mais... Ce qui est intéressant dans le cas de Nancy Heng, ajoute Kendall Stoney Street, c'est qu'il s'agit d'une femme d'origine asiatique. Une grande partie de la rhétorique des contenus concernant ce cas, de la part des créateurs asiatiques entre autres, porte sur la façon dont l'histoire de Nancy Heng devrait recevoir une visibilité similaire à celle de Gabi Petito. Et effectivement, bien que certains créateurs de contenu, dont Ed Choi ou Courtney Nicole et ses 1,2 million d'abonnés, aient réussi à faire connaître le cas de Nancy Heng, il n'a certainement pas fait la une des journaux autant que la disparition de Gabi Petito. Des vidéos sur TikTok avec le hashtag Gabi Petito ont recueilli 2,2 milliards de vues, soit 61 fois plus que celle avec le hashtag Nancy Heng. Et TikTok ne s'arrête plus. Alimenté par les nombreuses contradictions de l'affaire, la communauté TikTok recherche des réponses, émet des théories du complot et même de mensonges comme elle aime parfois le faire. Par exemple, le fait que Christina aurait dit avoir vu Nancy se noyer, mais c'est pas repris dans le rapport de police. Le temps que le bureau du procureur a mis à entrer en contact avec les témoins, la disparition de Nancy, qui est annoncée 24 heures après par les participants de la retraite et l'organisateur, qui soutient que l'événement a été déclaré le jour même, mais c'est pas ce qu'indiquent les registres de la police, la famille Heng, qui tente d'entrer en contact avec Christina qui refuse de leur parler, et le fait que 95% du lac soit fouillé, mais le corps de Nancy n'est toujours pas retrouvé. Si elle se noie et que les autres sont autour, pourquoi ne pas appeler les secours pour tenter de lui venir en aide ou même récupérer son corps? Pourquoi est-ce que tout le monde est reparti aux États-Unis directement après les faits? Pourquoi ne pas expliquer simplement ce qu'il s'est passé? Et pourquoi les versions de chaque participant ne font que soulever plus de questions? Après 6 mois de recherche, la famille de Nancy, 29 ans, reste sans réponse quant à sa disparition. Sans aide des témoins, sans intérêt pour l'affaire de la part des autorités locales, sans transparence sur l'enquête de la part du FBI, il se rassure, parfois de façon illusoire, en se disant qu'elle est en retard et qu'elle pourrait réapparaître en disant qu'elle s'est retrouvée occupée et qu'elle n'a pas vu le temps passer. Certes, tu regardes cette vidéo probablement depuis la France, mais je sais aussi d'un peu partout dans le monde, si tu as des informations sur Nancy, sur sa disparition, si tu souhaites te porter volontaire pour les efforts de recherche d'une manière ou d'une autre, tu peux contacter la famille Heng à l'adresse email suivante, helpusfindnancy@gmail.com. Donc je te mets l'adresse à l'écran et je la mets aussi en barre de description. Il y a aussi un compte Instagram dédié, pareil, je te mettrai ça en description, et je te mettrai aussi un lien vers la cagnotte GoFundMe. On n'aide que si on peut aider. La famille Heng donne d'autres façons de les aider et je cite « Alors que nous continuons à chercher des réponses concernant la disparition de Nancy, nous avons besoin de toute l'aide, du soutien et de la sensibilisation possible. À cette fin, nous vous demandons désespérément de procéder comme suit. 1. Continuez à partager et à publier nos mises à jour sur les réseaux sociaux. 2. Si vous êtes aux États-Unis, appelez, envoyez un email à vos élus locaux, étatiques et fédéraux pour leur demander de prendre les mesures nécessaires concernant cette affaire. Ils partagent le lien vers un site internet que je te mettrai aussi en barre de description. 3. Ils demandent aussi de les taguer, de les identifier dans les contacts médiatiques que tu connaîtrais et qui pourraient aider à faire passer le message. Ramenons Nancy à la maison. Si tu vas faire un tour sur TikTok, sur YouTube et que tu tombes sur des vidéos de la famille de Nancy, tu verras qu'ils sont absolument pas menaçants envers Christina comme elle l'a prétendu. Ils sont juste en larmes, ils sont dévastés. Ils implorent Christina, apparemment la dernière personne à l'avoir vue en vie, de leur donner des réponses ou juste des pistes. Ils expriment même leur gratitude envers elle quand enfin elle fait une déclaration. Ce qui est quand même très grave dans cette affaire, c'est de se dire que Christina est avocate. Son métier, c'est de défendre la cause d'une personne, et là en l'occurrence, même si elle n'est pas amie avec Nancy, même si c'est pas son avocate personnelle, dans une telle situation, et étant donné son parcours, on se demande pour quelle raison elle est devenue avocate, comment est-ce qu'elle exerce son métier. Depuis le début, Christina a pensé à une chose et une seule, Christina, elle-même. Et c'est pas étonnant au final quand on sait que la jeune femme est liée au producteur hollywoodien Harvey Weinstein, voilà, le producteur hollywoodien déchu. Et pour dire un dernier mot au sujet d'Eduardo, le directeur du centre de yoga, d'après plusieurs témoignages, n'est pas seulement l'instructeur de yoga de Nancy, mais aussi son ami. Donc bravo le sens de l'amitié qu'il a ce mec. Après l'incident, Eddie va supprimer plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux de son centre de yoga, comme s'il avait quelque chose à cacher. Tous ses comptes personnels sont maintenant privés, enfin les photos, les... privé, tu ne peux plus avoir accès. D'après certains membres, il leur est interdit de parler de l'affaire Nancy dans le club de yoga. Donc si tu veux faire du yoga, ne va pas chez Hot 8 Yoga. Oui, parce que je ne te l'ai pas encore dit, mais le mec a repris les cours comme si de rien n'était. Et d'après une cliente du centre Hot 8 Yoga, elle aurait été agressée physiquement par Eddie. Hein, donc tout ce qu'on a dit au départ sur la sincérité, la compassion, blablabli, blablabla, ça ne semble pas concerner au moins ce groupe de 11 personnes. Je précise que cette jeune femme n'est pas la seule à avoir porté plainte contre Eddie. C'est pas la seule qui a fait un témoignage qui va dans ce sens, mais à ce jour, aucune plainte n'a été déposée, enfin pas encore. Si j'ai partagé les liens qui ont été donnés par la famille, donc email, etc., pour les personnes qui ont des informations, c'est parce que je sais que certaines personnes regardent ma chaîne depuis les États-Unis. Donc je partage aussi, ne sait-on jamais, je t'invite aussi à partager, pas seulement ma vidéo, mais aussi voilà tout élément que tu trouverais sur, même des vidéos TikTok, mais qui sont quand même bien construites. Partage un maximum sur Nancy, au même titre que Gabi Petito, et ça a fasciné tout le monde. Ce que j'espère, c'est que Nancy va autant fasciné entre guillemets et que la famille puisse obtenir des réponses. Pour finir, j'ajouterais que je traite rarement, voire quasiment jamais d'affaires non résolues. La seule fois où je l'ai fait jusqu'à présent, c'est celle-ci, mais il y avait aussi l'affaire Suzanne Cox, mais encore une fois, c'était pas vraiment du non résolu. Je t'invite à regarder les deux vidéos que j'ai fait sur cette affaire si tu ne connais pas, ou à revoir, parce que c'est une affaire qui m'a vraiment fasciné. Donc je traite jamais d'affaires non résolues parce que pour moi c'est une frustration qui est beaucoup trop grande. Alors j'arrive même pas à imaginer ce que la famille de Nancy est en train de traverser. Cette affaire m'a beaucoup touchée parce que Nancy est une femme qui est partie en voyage. Les voyages ça me connaît. Enfin si tu me connais un minimum tu sais que j'adore ça. Ici dans ce cas précis il s'agit d'une retraite yoga, une retraite spirituelle. Enfin la vérité, la sincérité. Où sont-elles ? S'il s'agissait d'une seule personne qui garde le silence dans cette affaire, on pourrait presque comprendre. Mais là, wink wink, Christina, enfin, il n'y a pas qu'elle qui se tait, il n'y a pas qu'elle qui garde le silence. Ici, il s'agit potentiellement de 11 personnes qui ne veulent pas parler et qui retournent à la maison comme si de rien n'était. Nancy, elle est probablement morte. Dans quelles conditions ? Pourquoi ? Est-ce que c'était un accident ? Est-ce que c'était pas un accident ? J'espère de tout cœur pour elle, pour sa mémoire et pour sa famille, que ce mystère sera un jour levé. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci aux personnes qui me soutiennent en partageant, en mettant des commentaires et en s'étant abonné. C'est tout pour moi, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.